Radio Kapi.
Bonjour à toutes et à tous à la une de ce journal sur Radio Okapi. Après 3 semaines, les consultations initiées par le président de la République pourraient prendre fin ce mardi à Kinshasa. C'est un communiqué de la présidence publié hier lundi qui le dit. Félix Antoine Tshisekedi reçoit aujourd'hui les derniers inscrits sur la liste. Le chef de la milice Nduma Defense of Congo, Thabo Taberi Tcheka, condamné à la perpétuité, la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu a rendu hier lundi son arrêt après un long procès de 2 ans. Grande satisfaction pour les victimes ainsi que de la chef de la MONUSCO qui salue cette condamnation qui va certainement servir de modèle pour les autres chefs de guerre en RDC. L'administrateur du territoire de Lubero plaide pour l'ouverture des routes donnant accès au lac Édouard. Le territoire de Lubero occupe 80% de la côte ouest du lac Édouard, mais il n'existe aucune route donnant accès à l'intérieur de ce territoire à partir du lac. Cet état de choses engendre de graves conséquences aussi bien sécuritaires que économiques. Richard Nyimbo, administrateur du territoire de Lubero, est l'invité de Radio Okapi ce matin. Voilà pour les titres, vous êtes tous les bienvenus à cette édition sur Radio Kapi. Les consultations présidentielles débutées depuis lundi 2 novembre pourraient prendre fin aujourd'hui, mardi 24 novembre, avec l'audience qui sera accordée aux derniers inscrits sur la feuille du protocole. C'est l'annonce faite hier par la presse présidentielle à travers un communiqué. Pendant 3 semaines, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a personnellement reçu différentes personnalités du monde politique et social de Kinshasa, ainsi que de l'arrière-pays, toutes tendances confondues. Le communiqué précise qu'après ces consultations, le président de la République va se donner un temps raisonnable pour compiler différentes suggestions qui lui ont été faites avant de prendre ses décisions. Mais pour la journée d'hier lundi, notez que les représentants des assemblées provinciales, tout en adhérant à l'idée de la création de l'Union sacrée pour la nation, à l'issue de ces consultations, ont invité le chef de l'État à prendre en compte certains acquis de la coalition FCC-CACH. D'après le porte-parole du groupe, Louis Kamoeni, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, tout n'est pas à rejeter dans cette coalition. On l'écoute au micro de Jacques-Yves Molima.
D'abord, le collectif des présidents des assemblées provinciales avec tous leurs collègues a remercié le président de la République pour avoir l'idée de penser à toutes les forces vives du pays pour venir lui donner les idées essentielles dans la création de ce que lui-même avait annoncé, l'Union sacrée pour la République. Nous avons estimé que cette union sacrée devra être inclusive, devra être vraiment de tous les acquis de la coalition FCC-CACH qui ont visé le bien-être des populations congolaises. Nous voulions tout simplement dire qu'il ne faudrait pas oublier aussi que dans cette coalition qui a existé, il y a eu quand même des bienfaits, qu'il ne faudrait pas balayer d'un simple coup de pouce.
Le député national Fabrice Puella, débouté hier lundi par le Conseil d'État, qui a déclaré irrécevable sa requête sollicitant de la juridiction administrative la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Fabrice Puella accusait le bureau de la Chambre basse du Parlement de violer l'article 139 de son règlement intérieur. Cet article impose au président de l'Assemblée de déposer le rapport financier dans le délai fixé par la loi, ce qui n'était pas fait selon lui. Les détails avec vous, Jeff Ngoy.
Dans son ordonnance, le Conseil d'État justifie sa décision par le fait que la requête de Fabrice Puella n'a pas obéi aux conditions de sa loi organique. Le député n'a pas annexé à sa requête la décision administrative attaquée. Il n'a pas non plus intérêt démontrant le préjudice subi. Le Conseil devrait simplement se déclarer incompétent pour un acte administratif interne à l'Assemblée nationale, nous confie un haut magistrat. À travers cette procédure, l'élu de Matadi reprochait au bureau Mabunda de n'avoir pas présenté le rapport financier de l'exercice précédent. Une accusation battue en brèche par la défense de la présidente de cet organe la semaine dernière lors des plaidoiries, évoquant le défaut de qualité et l'intérêt dans le chef du requérant. Ce dernier dit cependant qu'il réfléchit avec son conseil sur d'autres moyens à développer. Mais au Conseil d'État, le dossier est définitivement clos, car les décisions de cette juridiction rendues en dernier ressort sont immédiatement exécutoires et opposables à tous.
Dans la province du Nord-Kivu, après un long procès qui a duré plus de 2 ans, c'est finalement hier lundi que la Cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu a rendu son arrêt contre le chef de la milice Nduma Defense of Congo, Thabo Ntaberi Tcheka, écope de la peine à perpétuité à la grande satisfaction des victimes. Le point avec vous, Gabriel Ouaméya.
Il est 17h30, c'est lundi, lorsque le premier président de la Cour ordonne la présentation des armes. Tcheka et ses 3 co-prévenus sont appelés à la barre. Le magistrat lieutenant-colonel Nsa Obal passe à la lecture de l'arrêt. Batesi Ndole, infirmier de son état, est acquitté et la Cour met fin à toute poursuite judiciaire alors que Jean-Claude Lukambo, le plus jeune de tous les prévenus, doit passer 15 ans derrière les barreaux. Quant aux 2 principaux prévenus dans cette affaire, dont Thabo Ntaberi Tcheka, Nzitonde Abimana Serafin, alors commandant du bataillon Montana basé à Mutongo dans les territoires de Walikale pendant la commission des faits, la Cour a prononcé la peine à perpétuité ainsi que les dommages allant de 4 à 12 000 dollars américains aux victimes. Quelques organisations internationales et nationales ainsi que les quelques victimes présentes dans la salle pendant les prononcés se disent satisfaites par la décision de la Cour. Rappelons que Tcheka et ses co-accusés étaient jusque-là poursuivis pour les faits graves commis entre les années 2010 et 2014 dans les territoires de Walikale et Masisi. Goma, Gabriel Ouaméya, Radio Okapi.
Et cette condamnation à perpétuité de Thabo Ntaberi Tcheka ainsi que de ses co-accusés par la justice militaire à Goma est saluée par la chef de la MONUSCO. Pour Leila Zerougui, ce verdict est, je cite, « source d'un immense espoir pour de nombreuses victimes de conflits en RDC. Les souffrances ont été entendues et reconnues. L'impunité n'est pas une fatalité. Il témoigne aussi de la détermination des autorités congolaises à poursuivre avec notre soutien le combat judiciaire contre tous les criminels de guerre en République démocratique du Congo, passé et présent », a-t-elle déclaré. Et sachez que la MONUSCO a notamment accompagné les autorités judiciaires militaires dans les enquêtes conjointes et l'organisation du procès contre Tcheka. Elle a aussi assuré la protection des parties au procès en collaboration avec les forces de sécurité congolaises et soutenu activement la participation effective des victimes et des témoins au procès conformément aux normes de protection judiciaire. Les avocats qui assistent les personnes poursuivies pour le meurtre des 2 experts des Nations Unies au Kasaï ont reçu un appui financier du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH, pour le bâtonnier du barreau du Kasaï central. Il s'agit d'un témoignage de reconnaissance pour le travail qu'ils font. Maître Dominique Kambala demande aux avocats de prendre conscience de leur part de responsabilité dans ce dossier. Écoutez-le au micro de Joël Bofengo.
Nous avons réclamé à corps et à cri un témoignage de reconnaissance. Et aujourd'hui, il y a ce témoignage de reconnaissance à travers les partenaires, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui s'est mobilisé pour qu'aujourd'hui, il y ait un témoignage de reconnaissance en termes d'un appui financier. Je pense que les avocats avaient besoin de ça. Je crois qu'on est arrivé à cette compréhension commune. Ce témoignage, c'est un signe très fort qui permet de pouvoir avancer, aller de l'avant. Il me semble que la ligne droite est désormais ouverte. Il faut qu'il y ait une conscience collective des magistrats, la conscience des avocats, de tous ceux qui interviennent dans cette chaîne, pour se dire que voilà, le procès est suivi à un haut niveau et que tout le monde attend les résultats, que justice soit rendue et que les avocats devaient prendre conscience de leur part de responsabilité dans la chaîne pénale, dans les maillons de la chaîne, pour comprendre que c'est toute l'humanité qui regarde.
Le déroulement de ce procès a quelque peu été perturbé ces dernières semaines par l'absence des conseils des prévenus qui, d'après le bâtonnier, réclamaient des indemnités des avocats au titre de l'aide légale. Marche pacifique de la Lucha ce lundi à travers quelques grandes artères de la ville de Beni. Le mouvement citoyen lutte pour le changement dit exiger par cette action la justice par rapport à certains de leurs militants tués lors de la marche du 23 novembre 2019, où voici une année déjà. Elle visait également cette marche à exiger la paix et la sécurité dans le territoire de Beni. André Kitenge pour plus de détails.
Ils étaient près de 100 militants de la Lucha à manifester ce lundi à travers quelques artères de la ville de Beni. Selon les organisateurs, la manifestation a 2 objectifs, à savoir exiger justice et réparation. réparation pour le meurtre d'Obadi Muindo, un des membres de la Lucha et de tous les autres qui auraient été tués par la police nationale congolaise et la MONUSCO selon eux au mois de novembre et décembre 2019. À leur arrivée à la base Madiba de la MONUSCO à Boïkéné, ces militants ont échangé avec la chef de bureau de la MONUSCO Grand Nord. Répondant à leurs revendications, la chef de bureau leur a transmis sa compassion, mais aussi affirmé l'engagement ferme de la mission à soutenir les forces de sécurité congolaises afin de rétablir la paix dans la région. En ce qui concerne la justice, Cecilia Piazza a indiqué à ses interlocuteurs que les enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités dans la mort de certains civils lors des manifestations de l'année dernière. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Le contrôle des armes et des petits calibres doit intégrer la dimension genre afin de comprendre l'impact de ces armes sur la vie des hommes et des femmes. C'est la thématique qui réunit près d'une centaine d'experts de plusieurs horizons depuis hier ici à Kinshasa. Cet atelier de formation est organisé par le Centre Régional de l'ONU pour la paix et le désarmement UNRC avec l'appui financier de l'Union Européenne. Le Centre Antimine des Nations Unies UNMAS participe également à ces travaux. Madame Early Mounoz, coordonnatrice de l'UNRC, explique pourquoi il est nécessaire d'intégrer la dimension genre dans le processus de lutte contre la prolifération des armes légères en RDC. Elle le dit au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
En principe, il faut comprendre quels sont les concepts, la terminologie qu'on peut utiliser pour analyser ces sujets et après cela, faire les liaisons avec les armes légères et petits calibres ou le contrôle des APC. Et nous avons aujourd'hui la participation des experts genre qui nous parlent sur la différence entre genre et sexe et l'égalité des genres. Aussi. Une fois que les participants comprennent ces concepts, on peut commencer à faire la liaison avec des armes légères pour comprendre de quelle manière et la prolifération des LPC, la circulation illicite et les mal gestion des armes légères de petit calibre impactent les hommes et les femmes d'une manière différente. Mais pas seulement les hommes et les femmes, mais aussi les garçons et les filles. Une fois que nous comprenons les impacts, les perspectives aussi, et quelles sont les conséquences, les causes sous-jacentes. Alors, on va commencer à comprendre et analyser de quelle manière on peut arriver à mettre en œuvre des politiques des armes légères et des petits calibres.
Découverte d'une fosse commune le week-end dernier par les habitants de la commune de Lancélé, ici à Kinshasa, la découverte macabre a eu lieu à l'occasion de l'exécution de certains travaux de construction et de traçage d'une route dans une concession qui a été récemment lotie. Aussitôt alerté, l'ONG ACAJ a dépêché son équipe d'enquêteurs qui ont pris des photos et ensuite alerté les autorités politico-administratives pour leur demander de sécuriser le site en attendant les enquêtes par l'autorité judiciaire compétente. Georges Kapiamba, président de la CAJ, joint au téléphone par Blaise Chindani.
Nous avons été rassurés par le procureur général près de la cour d'appel de Matete, qui l'a instruit le procureur de Kinkole pour amorcer une enquête et prendre toutes les mesures conservatoires afin de protéger le site jusqu'à la fin de l'enquête. Les habitants de la commune d'Incélé, comme nous-mêmes, nous avons insisté auprès du procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete pour que l'enquête qui est annoncée cette fois-ci puisse aboutir à des conclusions qui devront être rendues publiques pour que l'opinion sache ce qui s'est réellement passé, à la différence de ce qu'on avait vécu l'autre fois lorsque les habitants de Maloukou avaient découvert une fosse commune et avaient alerté tout le monde. Les anciens dirigeants de l'époque du régime passé avaient tout fait pour étouffer l'enquête et jusqu'à ce jour, aucune conclusion sur cette fosse commune n'a jamais été rendue publique. Donc nous espérons que cette fois-ci, le peuple congolais ne pourra pas être encore victime de ce genre d'enquête.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, l'opposition met en garde contre des résultats entachés d'irrégularités. La commission électorale suspend la publication des résultats provisoires commune par commune, comme elle avait commencé à faire depuis hier lundi à midi. Cette décision a été prise après une déclaration de 7 candidats signataires de l'accord politique de l'opposition qui avaient publié une déclaration pour mettre en garde la CENI. Ils ont aussi émis de très fortes réserves sur la sincérité et la crédibilité de ces résultats, dénonçant le caractère massif des irrégularités et insuffisances.
L'invité.
Le territoire de Lubero occupe 80% de la côte ouest du lac Édouard, mais il n'existe aucune route donnant accès à l'intérieur de ce territoire à partir du lac. Une situation qui engendre de graves conséquences aussi bien sécuritaires que économiques. Richard Nyimbo, administrateur du territoire de Lubero, a exprimé cette inquiétude à Radio Okapi. Il s'entretient à ce sujet avec Florida Kaambu.
Monsieur l'administrateur, bonjour.
Bonjour Floride.
À territoire de Lubero, il y a les transporteurs de poissons qui font face et aux problèmes des routes. Entre-temps, d'ailleurs, ils sont en grève pour protester ce qu'ils appellent tracasserie routière. Quelle est la situation dans les Lubero?
Oui, ce qu'il faut retenir est que le territoire de Lubero occupe plus de 80% du lac Édouard du côté ouest du lac. Et le contraste qui est là, quand vous regardez très bien, nos amis de Beni, ils arrivent par véhicule à travers Kavinyonge. Nos amis de Rutshuru, ils arrivent au lac par véhicule à travers Vichumbi. Mais Lubero, il n'y a aucune voie routière pour que les véhicules arrivent au niveau du lac Édouard. Alors, pour ça, nous avons déjà travaillé avec plusieurs personnalités. Et du côté nord, à ce jour, la route quitte Kipese jusqu'à Bukununu. Il ne reste qu'une affaire de 13 km pour accéder au lac. Et du côté sud du territoire, la route passe par Kikubo, Kamandijit. Il nous reste une affaire de 14-15 km pour accéder au lac Édouard, ce qui va permettre de désenclaver toutes ces entités qui sont au Graben du côté Lubero, et ça nous permettra aussi de lancer le développement des entités comme Kirumba, Kaina, Kanyabayonga et voire même Kipese. C'est ça le plaidoyer majeur, parce qu'aujourd'hui les gens en parlent, mais ce qui est vrai, le territoire est déconcentré. Nous avons des entités décentralisées, la chefferie, le cas de Lubero et quelques communes qui font payer des taxes, mais le territoire n'a pas de taxes. Vous comprenez un peu ça? C'est un grand problème, mais un grand défi aussi. C'est pourquoi nous faisons un appel et aux autorités et à tous les partenaires qui cherchent à aider notre territoire à penser d'abord au traçage de cette route-là. C'est vraiment quelque chose qui est inadmissible. C'est nous qui avons plus de 80% côté du lac, mais on n'accède pas par véhicule. Ça, c'est un 2D. Bon, concernant ce qui se passe par rapport à la grève de nos amis, j'ai déjà commencé le pourparler avec le président de leur comité. Nous allons voir comment échanger avec les uns et les autres pour encadrer un peu la chose. Ça, c'est un, parce que nous avons nos forces de l'ordre qui sont de l'autre côté. Par rapport à cet état de la route, il se retrouve même leur ration peut traîner au niveau de Kirumba, au niveau de Lubero. Vu l'état de la route, nous enregistrons beaucoup de problèmes là-dessus. C'est pourquoi nous sommes rassurants que les échanges évoluent très bien. D'ici quelques heures, nous allons trouver la voie de sortie et les transporteurs de poissons vont continuer à travailler en toute quiétude.
Si on prend l'axe routier entier, on peut avoir combien de kilomètres?
Oui, en fait, il y a beaucoup de bretelles là-dessus. Mais ce qui est prépondérant et nécessaire pour l'instant, c'est ce que je viens d'étayer tout à l'heure. C'est-à-dire, il est vraiment impérieux qu'il y ait une route praticable de Kamandijit à Kamandilac. Il faut que les véhicules arrivent au lac. Ça, c'est un. C'est très important pour le développement. C'est ce qui est important aujourd'hui pour Lubero. On n'a pas besoin de raconteurs inutiles, mais ce qui nous cadre, ce qui concerne le développement de toute cette population-là qui occupe la grande partie du sud-est du territoire de Lubero, c'est l'accès au lac. Ça va nous aider à faciliter beaucoup de choses là-dessus.
Alors, à votre niveau, est-ce que vous avez programme de désenclaver cette zone?
Oui, nous le faisons. Nous donnons juste des orientations. Nous le faisons parce que récemment ici, vous savez, la route Butembo-Kanyabayonga était totalement fermée. Mais quand nous avons échangé avec l'autorité provinciale, le gouverneur a compris, il a choisi un attributaire de haute facture et aujourd'hui quitter Lubero ou bien Butembo à Goma, c'est quelques heures, vous êtes déjà à Goma. C'est déjà un pas, mais ça c'est la route principale. Mais il nous faut aussi des routes secondaires pour permettre au déplacement, pour permettre l'évacuation des produits vivriers.
Alors est-ce que vous avez des moyens vraiment pour y arriver?
Comme j'ai signalé tout à l'heure, nous en tant que territoire, on est déconcentré, on n'a pas de moyens, mais qu'à cela ne tienne, nous faisons ces plaidoyers et à travers votre micro et les pouvoirs centraux et l'autorité provinciale et toutes les personnalités du Grand Nord qui nous écoutent, ils vont s'y penser comme ils l'ont fait pour Beni. Je crois bien ils le feront aussi pour Lubero. À ce stade de débat, il n'y a aucun partenaire qui est là par rapport à ces projets, mais nous estimons que comme nous avons lancé ces projets, nous avons créé des petits comités au niveau local pour commencer d'abord avec des travaux d'une manière un peu locale, mais nous attendons ceux qui nous écoutent à travers vos ondes, à travers nos écrits, espérons qu'un jour on trouvera un partenaire qui va aider tous ces jeunes-là qui sont nés dans les grabins de Lubero de voir aussi le véhicule descendre là-bas. Je crois que c'est très important.
Monsieur l'administrateur, merci.
C'est moi qui vous remercie, Floride.
Richard Nyembo, administrateur du territoire de Lubero, l'invité de Radio Capi, répondait aux questions de Florida Kambo. Et c'est la fin de ce journal. Vous voulez le réécouter, tapez www.radiocapi.net.